encore aujourd'hui attire à lui des jeunes et puis des moins jeunes. Hein. Voilà. Et puis, vous savez, la jeunesse, ça passe. Hein. Lorsque j'étais un jeune prédicateur, parfois des chrétiens anciens me faisaient des réflexions, me disant, frère, vous êtes jeune. Et ça méritait. Mais rassurez-vous, si vous en êtes là, c'est pas une maladie incurable. Hein. Ça passe tout seul. Voilà. On va ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5 et au verset 8. Épître aux Romains, le chapitre 5 et le verset 8. On lira un seul verset qui dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Ceux qui fréquentent régulièrement nos réunions évangéliques savent que cette parole de l'Écriture est souvent citée. Christ est mort pour nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout d'abord que Jésus est mort à cause de nos péchés. Nous aurions pu lire un autre texte de la Bible qui dit dans un autre passage, Christ est mort pour nos péchés. Il n'est pas mort uniquement à cause des Juifs. Voyez, pendant des siècles, on a persécuté les Juifs, même au nom du christianisme, en disant « Vous avez tué Jésus !» C'est vrai qu'ils ont eu leur responsabilité, n'est-ce pas, puisque quand Pilate était sur le point de le relâcher, ils ont crié « Crucifie, crucifie-le !» Et par faiblesse, eh bien, Pilate a accédé à leur demande. Ce n'est pas les Juifs uniquement. Ce n'est pas les Romains non plus, même si ce sont des soldats romains qui ont enfoncé les clous dans les mains, dans les pieds de Jésus. Mais en fait, ce sont nos péchés qui ont provoqué la mort de Jésus. Et voyez-vous, ce ne sont pas les clous qui l'ont retenu sur la croix, ce sont le péché de nous tous. Nous pourrions dire que nous sommes tous responsables, tout au moins co-responsables, c'est-à-dire responsables avec tous les autres, de la mort de Jésus. Et ce qu'il nous faut comprendre, c'est que la mort de Jésus n'est pas un accident, n'est pas un imprévu, n'est pas un échec. Non, non, elle faisait partie du plan que Dieu avait conçu, élaboré, préparé de toute éternité pour résoudre le problème du péché, pour régler cette question. L'Écriture nous montre que de toute éternité, voyez-vous, avant même que l'homme soit créé et qu'il ne commette le péché, avant même que l'homme ne soit créé, il était prévu que le Fils éternel de Dieu donne un jour sa vie pour solutionner par son sacrifice, cette affaire de péché. Un passage de la Bible nous dit que Jésus, il fut, en tant que Fils éternel de Dieu, l'agneau prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné, ça veut dire destiné à l'avance. Prédestiné. Jésus était l'agneau prédestiné avant la fondation du monde, celui-là donc qui, par le sacrifice duquel, eh bien, nous pouvions être sauvés. Et les prophètes qui ont vécu des siècles avant la naissance de Jésus avaient annoncé d'avance le sacrifice de Jésus. Par exemple, dans ce passage fort connu d'Ésaïe 53, n'est-ce pas, qui a été rédigé quelques 7 ou 8 siècles avant la venue de Jésus, il est dit que le Messie était blessé pour nos péchés, brisé pour nos injustices et que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et si nous lisons tout le chapitre 53 du livre d'Ésaïe, eh bien, avec beaucoup de détails, les conditions de la mort, du sacrifice de Christ nous sont présentées avec des détails extraordinaires. Par exemple, ce passage nous dit que il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et vous savez certainement, comme moi, que quand Jésus a été crucifié, il est mort entre deux brigands, voyez. Lui fut crucifié et un autre fut crucifié à sa droite et un autre encore à sa gauche. Donc la parole de Dieu le prévoyait, l'annonçait. Jésus lui-même, à plusieurs reprises, a averti ses disciples de ce qui allait se passer. Ses disciples ne voulaient pas, ne pouvaient pas comprendre ce fait. Et Jésus leur disait, voici, nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, sera arrêté, livré entre les mains des païens, des Romains, qui le mettront à mort, et 3 jours après, il ressuscitera. Donc ça faisait partie du programme. Rappelons que le péché produit la mort, il produit la souffrance, et il produit le désespoir. Il nous sépare de Dieu et nous dresse le péché les uns contre les autres. Il entraîne la malédiction et la condamnation de celui qui le commet. Et parce que le péché est une affaire grave, Dieu a voulu résoudre cette affaire. Dieu a voulu porter solution à ce problème. Vous voyez, parfois on tourne ce mot de péché en dérision, mais ça n'est pas n'importe quoi. Et Lucien, tout à l'heure, a eu raison de dire que même, eh bien, ma foi, s'il n'avait ni tué ni volé, comme on dit d'habitude, même s'il était un garçon paisible, même si, quant à la morale humaine, il n'avait pas grand-chose à se reprocher, aux yeux de Dieu, comme vous, chers amis, comme moi, il était un pécheur. Et un jour, ses yeux se sont ouverts sur cette réalité que je partage avec vous cet après-midi. Christ est mort pour nous. Ça veut dire aussi, Christ est mort pour nous, que non seulement il est mort à cause de nos péchés, ce sont nos péchés qui l'ont envoyé à la croix, mais il est mort à notre place. Nous devons comprendre que Dieu est un Dieu saint, et Dieu est un Dieu juste, et sa sainteté exige que le péché soit puni, que le péché soit sanctionné, et donc que le pécheur, comme nous l'avons dit précédemment, soit condamné. C'est pour ça qu'il est écrit, encore un verset qui est cité si souvent, le salaire du péché, c'est la mort. Certains voudraient que Dieu soit quelqu'un que l'on puisse facilement manipuler. J'ai entendu des gens me dire, oh, on s'arrangera toujours avec le bon Dieu, n'est-ce pas? Mais non, mes amis. Dieu n'est pas ainsi. Parce qu'il est saint, parce qu'il est d'une pureté morale absolue, il ne peut pas fermer les yeux sur le mal que nous avons commis, vous et moi. Un texte de l'Écriture, de la Bible, dit que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. C'est-à-dire pour le laisser passer, pour le tolérer, pour l'accepter, pour l'admettre, pour s'en accommoder, pour laisser faire. Non! S'il faisait ainsi, ce serait contraire à ce qu'il est, le Dieu saint, parfait et juste. Mais si Dieu est saint et juste, il est aussi amour. En même temps, il veut donc sauver le pécheur dans son amour, il veut l'arracher à sa condition, à son état, le préserver, l'épargner, pour qu'un jour il ne soit pas condamné. Alors, il y a un problème là. Il y a un dilemme. Comment faire pour être à la fois juste et plein d'amour? Ce sont deux notions qui peuvent paraître contradictoires. Devant un tribunal, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait beaucoup d'amour, qu'en pensez-vous? Mais on s'attend à ce qu'il y ait de la justice. Par contre, dans le cœur d'une mère ou d'un père, eh bien, on s'attend à ce que l'on trouve de l'amour. Mais Dieu a voulu faire en sorte que, en même temps, le péché soit puni et qu'en même temps, le pécheur soit sauvé. Et pour cela, Dieu a choisi de faire porter à son fils Jésus, qui lui était sans péché, le poids de nos péchés, pour qu'il soit condamné à notre place. La Bible dit, l'Éternel a fait retomber ou reposer sur lui le péché de nous tous. Je vais vous donner une illustration de ce fait. Un prédicateur célèbre, qui s'appelle Billy Graham, un jour a été arrêté dans son pays, aux États-Unis, par la police, parce qu'il avait dépassé la vitesse autorisée. Donc, le policier le fait ranger sur le bord de la route ou de l'autoroute. Et puis, quand le policier s'approche, il s'aperçoit qu'il a affaire à ce prédicateur qui est fort connu aux États-Unis. Et il commence, le policier, à le féliciter pour son ministère. À le congratuler, à lui dire vraiment, vous êtes un homme de Dieu. Alors, Billy Graham se dit, super, je vais échapper à l'amende. Mais pas du tout. Parce que le policier, c'est un bon policier. Et la loi, c'est la loi. Billy Graham ou un autre. Et alors, il reste le procès verbal. Il devait être tout dépité, l'autre. Hein. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, mes amis. Parce que ce qui s'est passé, c'est que c'est le policier qui a payé l'amende. Vous comprenez? Justice a été faite. La loi, c'est la loi. Le procès verbal a été établi, mais le coupable a été épargné parce que quelqu'un a payé à sa place. C'est exactement comme ça que ça s'est passé pour que nous puissions être sauvés. Comprenez-vous? C'est simple, ça. Je mérite, moi, et vous aussi, hein, le jugement, la condamnation, l'enfer! Et ça ne serait que justice. Voilà. Et je n'aurais et il n'y aurait rien à dire en regard de la justice divine qui serait satisfaite s'il en était ainsi. Mais dans le cœur de Dieu, il n'y a pas seulement le sens de la justice, heureusement pour nous, il y a aussi l'amour. Parce que la Bible dit que Dieu est amour. Et pour nous sauver, eh bien, voilà. Voilà ce plan formidable que Dieu, rappelons-le, a prévu, a conçu, a préparé de toute éternité. C'est que son cher Fils éternel vienne un jour sur la terre des hommes, menant une vie sans péché contrairement à nous tous, se charge du péché de chacun d'entre nous et meurt sur la croix pour qu'en sa personne, le péché soit justement châtié. On en est puni et qu'en retour, les coupables que nous sommes, nous puissions être épargnés. Et ainsi, la justice est satisfaite, la justice de Dieu, le châtiment s'applique, la sanction s'applique, la loi est respectée, rappelez-vous, le salaire du péché c'est la mort, mais en même temps, le pécheur peut être sauvé. Il est mort à cause de nos péchés, il est mort à notre place, il est mort en notre faveur, pour que, par son sacrifice, le pardon nous soit offert. Cet après-midi, un cadeau formidable vous est offert. Il est à portée de main. Je dis bien, offert, c'est-à-dire proposé. C'est-à-dire, mis, chers amis, qui n'avaient pas encore reçu le salut, le pardon, dont vous avez pourtant tellement besoin, il est mis, ce pardon, à votre disposition pour le recevoir vraiment, ce pardon. Deux choses sont nécessaires, indispensables, de notre part. Dieu a fait sa part. Il a donné son Fils sur une croix. Il ne peut pas faire plus, hein. Il n'y a pas mieux que ça. Mais deux choses que nous avons à faire, nous. D'abord, la première de ces choses, c'est nous repentir. C'est-à-dire se reconnaître justement pécheurs. Eh oui. Dans la première épître de Jean, on pourrait le lire, mais permettez que je cite le verset, il est écrit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Par contre, ce même passage ajoute « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Vous voyez ? Notre ami Lucien aurait pu dire « Oh, un gentil garçon comme moi, comme lui disait sa sœur, il n'a rien fait qui mérite la colère de Dieu. Je vais passer dans les mailles du filet et le ciel m'est acquis parce que je suis un brave type, quoi. » Mais non, pas du tout. Ça n'a pas été son choix, ça n'a pas été sa réflexion, mais confronté à la réalité de ce qu'il était, confronté à la parole de Dieu, il a fallu qu'à un moment, il capitule devant Dieu et qu'il reconnaisse la réalité de sa culpabilité, de son péché. Eh bien oui, c'est ce qu'il faut faire. Parce que vous et moi, nous avons désobéi aux commandements de Dieu qui sont pourtant excellents. Et il nous faut, il vous faut décider cet après-midi de dire à Dieu, oui, je suis un pécheur et je te le confesse, je te l'avoue, je le reconnais devant toi. Et je décide maintenant, avec ton aide, de changer de manière de vivre. Et désormais, toujours avec ton aide, je décide de m'appliquer à vivre selon les principes bons et excellents que tu nous enseignes dans ta parole. Reconnaître que l'on est un pécheur, c'est la repentance. Et reconnaître, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, que si nous en restions là, nous mériterions la condamnation. Mais oui, Seigneur, je mérite ton châtiment, je mérite ta condamnation. Sans toi, sans ton pardon, je suis perdu. Parce que, comme je le dis souvent, pour recevoir le salut, il faut tout d'abord être conscient que si on en reste là, on est perdu. Un jour, un homme de la Bible, devant la révélation de la gloire de Dieu, s'est écrié « Malheur à moi, je suis perdu !» Et ça a été le premier pas pour qu'il soit sauvé. Mais pour qu'il soit sauvé, il a fallu qu'il prenne conscience de cette réalité. S'il restait dans sa situation, sa condition présente de pécheur, il était irrémédiablement perdu. Oui, oui, l'enfer, oui, la condamnation. Oui, les tourments incessants. Oui, la malédiction. Oui, l'éloignement définitif de la gloire de Dieu. C'est ce que nous méritons. Et il faut le confesser devant Dieu. C'est ce que vous devez faire, chers amis. Ça s'appelle la repentance. Et puis, la deuxième chose, je vous disais qu'il y avait deux points que nous devons faire, c'est croire à l'amour de Dieu. Amen. Et la plus belle preuve de l'amour de Dieu, oh, il y a de multiples preuves. La vie que nous avons, vous et moi, l'air que nous respirons, la nourriture que peut-être tout à l'heure nous avons mangée à midi, ce sont des preuves de l'amour de Dieu, tout ça. Parce que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Hein? Voilà, imaginez que Dieu simplement retire l'atmosphère qui entoure notre belle planète Terre. En quelques minutes, il n'y aurait plus de vie à la surface du globe, n'est-ce pas? Voilà. Tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes, nous le devons à l'amour de Dieu. Mais la preuve suprême de son amour, c'est le don de Jésus à la croix du calvaire. Et nous avons lu ce texte qui nous dit « Dieu prouve son amour envers nous ». En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Si vous doutez de l'amour de Dieu, pensez à la croix du calvaire. Et dites-vous là, Dieu m'a aimé au plus haut point. Alors il faut croire à l'amour de Dieu, et croire que nous aimant, il veut nous sauver. C'est son désir. Alléluia. Et il y a un verset de la Bible qui dit, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant, c'est-à-dire le pécheur, meure. Soit perdu, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Et qu'il vive, qu'il soit sauvé. C'est sa joie de pouvoir le faire. Et quand Dieu pardonne, quand Dieu offre, quand Dieu communique, quand Dieu donne, quand Dieu impartit son pardon à un pécheur, il ne le fait pas à contre-cœur. Il ne le fait pas en rechignant. La Bible dit qu'il prend plaisir à la miséricorde. Alléluia. Hein? C'est son plaisir. C'est son activité, si je puis m'exprimer ainsi, avec tout le respect que je lui dois, son activité favorite que de pouvoir sauver les perdus. Jésus a dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, qui est sauvé donc, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et Jésus a voulu illustrer cette vérité par une petite histoire savoureuse. Il nous parle d'une femme ordinaire en Israël qui avait 10 drachmes, c'est-à-dire 10 pièces de monnaie. Et voici que sur ces 10 drachmes, il arrive que malencontreusement, elle en perd une. Je ne sais pas comment elle s'est débrouillée. Elle a roulé dans un coin et puis voilà. Et vous savez, quand on est pauvre, la moindre pièce a de la valeur. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, peut-être à certains, hein, dans des périodes difficiles de votre vie, de compter vos sous un par un en disant, tiens, aujourd'hui je vais encore pouvoir acheter la baguette de pain. Hein. Heureusement, voilà. Et cette femme, elle en était là, vous voyez. Et cette petite pièce, il fallait qu'elle la trouve absolument. Elle ne pouvait pas faire sans. Alors qu'a-t-elle fait? C'est en Orient, en Israël, autrefois. Il n'y a pas des néons là qui éclairent plein phare, vous voyez. Elle allume une lampe à huile. Et puis, elle prend le balai, parce que le sol est en terre battue. On ne balaye pas tout le jour, non, non, non. Et elle balaye dans les coins les plus reculés, les plus sombres de la pièce. Et elle fait des efforts ici, là-bas, ailleurs, jusqu'à ce qu'elle trouve la pièce. Parce que cette pièce, elle est précieuse. Mes amis, vous êtes précieux pour Dieu. Parce que ce qui vous donne la valeur, ce n'est pas l'importance que vous avez en vous-même. Vous et moi, qu'est-ce qu'on est? Un grain de poussière dans l'univers. Mais ce qui vous donne de la valeur, de l'importance, c'est l'amour que Dieu vous porte. Et c'est pour ça que la Bible dit que, tout comme la femme s'est réjouie, quand enfin, après bien des efforts et des tentatives, elle a retrouvé sa pièce, quand elle s'est réjouie, de la même manière, il y a de la joie dans le cœur de Dieu quand un pécheur se laisse sauver. Et cet après-midi, Dieu voudrait pouvoir connaître cette joie en vous sauvant, en vous sauvant. L'Écriture dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner. C'est pas formidable ça? S'il y a quelqu'un qui, cet après-midi, invoque le Seigneur là dans le secret de son cœur, comme on le disait tout à l'heure, en disant, Seigneur, je reconnais, je confesse que je suis un pécheur, je t'ai offensé, j'ai désobéi à tes commandements, pardonne-moi, aide-moi, purifie mon cœur, aide-moi à changer de vie, à avoir une autre attitude, un autre comportement. Qu'est-ce que va dire le Seigneur là-haut dans le ciel? Est-ce qu'il va dire, encore un qui vient solliciter mon pardon? Non, mais ça commence à bien faire. Non, mes amis, il ne se lasse pas de pardonner. Il prend plaisir à la miséricorde. Alors, il faut croire que le sacrifice de Christ efface parfaitement tous les péchés et nous permet de recevoir un pardon total, un pardon définitif. Hein? Parce que quand Dieu pardonne, il le fait à fond et il ne reviendra plus jamais sur la question. Je ne sais pas si vous connaissez de ces gens, vous savez, qui disent je pardonne, parce que peut-être vous n'avez pas été ici ou là très sympathique, et puis à la première bêtise que vous faites, ils vous ressortent toutes les affaires d'il y a 10 ans ou 20 ans en arrière. Vous connaissez des gens comme ça, hein, qui sont rancuniers, qui affirment avoir pardonné, mais ils n'ont rien pardonné du tout. L'Écriture dit, je ne me souviens plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Ça, c'est bon, vous voyez. Quand on est pardonné, on peut s'approcher de Dieu librement, à savoir que tout ce qu'il y a eu de pas glorieux, de pas brillant, s'est effacé définitivement. La preuve que le sacrifice de Jésus est efficace, c'est qu'il est ressuscité. Et la résurrection de Christ, c'est la validation de son sacrifice, vous voyez. C'est la preuve que Dieu a accepté son sacrifice. Donc il n'y a aucune raison de douter mais au contraire, toute raison de croire, de faire entièrement confiance. Alors, certains disent, mais c'est trop facile, votre affaire. C'est si facile que ça? Vous savez, quand on parle de facilité à ce sujet, laissez-moi vous dire que ça ne fut pas facile pour Jésus. Puisque notre péché a rendu nécessaire sa mort. Et pour nous, il ne s'agit pas de parler de facilité, mais pour nous, Dieu a voulu nous simplifier les choses. Facilité et simplicité, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est simple pour nous. Si simple, nous dit l'Évangile, qu'un enfant peut le comprendre et peut le saisir. Vous voyez, parce que l'Évangile, c'est pour les grands, pour les adultes, pour les jeunes, comme disait Lucien tout à l'heure, hein, pour les personnes âgées, mais c'est aussi pour les enfants. D'ailleurs, Jésus a dit dans les Évangiles, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et ailleurs, Jésus dit, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. Alors cet après-midi, puissiez-vous avoir un cœur d'enfant, et même un cœur de petit enfant, pour être tout simple, et dire, Seigneur, je veux arrêter de couper les cheveux en quatre, de compliquer ce que tu as voulu simplifier, et je viens à toi tel que je suis. Tel que je suis, Seigneur, reçois-moi, pardonne-moi, car je reconnais que je suis un pécheur, mais je mets ma foi, mon espérance, ma confiance dans le sacrifice de Jésus, et ton pardon et ton salut, je le reçois. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas plus simple que ça. Vous avez compris? Parce que si vous n'avez pas compris, on peut recommencer, hein, au départ. Parce qu'il faut que ça rentre dans votre cœur, cette parole. Si vous la recevez, pas parce que c'est la mienne, c'est la parole de Dieu. Moi, je suis qu'un messager, mais le message, c'est l'Évangile. Cette parole, si vous la recevez favorablement dans votre cœur, elle a le pouvoir, elle a la capacité de sauver votre âme, de vous permettre un jour d'entrer dans le royaume des cieux et déjà de vivre en compagnie du Seigneur sur la terre. Comme disait Stéphane tout à l'heure, la présence de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. Alors, venez au Seigneur simplement et croyez que comme nous l'avons lu, eh bien Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et dites-vous chacun pour votre part, il est mort pour moi, pour le voisin aussi, ou la voisine, mais il est mort en particulier, spécialement pour moi, et je veux bénéficier de la grâce qui est contenue dans ce fait merveilleux du sacrifice de Jésus accompli à la croix du calvaire. Recueillons-nous quelques instants, s'il vous plaît. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te louons.